Radio Prague, les informations. Bonjour, le vice-premier ministre Radek John a démissionné de ses fonctions. Les députés ont adopté la petite réforme des retraites et puis en sport, en hockey sur glace, la République tchèque a battu les États-Unis et s'est qualifiée pour les demi-finales du championnat du monde. On ouvre donc avec ce nouveau rebondissement dans la suite des problèmes de la coalition gouvernementale et du parti Affaires publiques. Le vice-premier ministre et président des Affaires publiques, Radek John, a démissionné mercredi du gouvernement où il occupait depuis 2 semaines la nouvelle fonction de chef de l'office de lutte contre la corruption. Ancien ministre de l'Intérieur, contraint de démissionner en avril suite à une affaire de corruption interne au parti, Radek John a justifié sa décision de remettre sa démission au Premier ministre Petr Nečas en expliquant que la situation au sein de la coalition n'était plus, je cite, « tenable ». La démission du vice-premier ministre doit encore être transmise au président de la République. Par ailleurs, Vít Bárta, qui est de facto le leader des affaires publiques, a annoncé toujours ce mercredi qu'il abandonnait sa candidature à l'élection de président de la plus petite des 3 formations de la coalition gouvernementale. Personnage controversé, contraint lui aussi récemment de démissionner de son poste de ministre des Transports, Vít Bárta a indiqué que le parti devait se rassembler derrière son leader actuel, Radek John. Il a également insisté sur le fait que les affaires publiques ne devaient pas abandonner la lutte contre la corruption, une des priorités de son programme. L'élection du nouveau président des affaires publiques se fait sur Internet. Le résultat de ce vote électronique devrait être connu d'ici au 23 mai. Le candidat élu devra toutefois encore être confirmé lors d'une conférence nationale du parti qui se tiendra les 28 et 29 mai. 1 semaine après la petite réforme de la santé, la Chambre des députés a approuvé ce mercredi le projet gouvernemental dit de petite réforme des retraites. Ce texte modifie notamment le calcul du montant des pensions de retraite suite à une décision rendue par la Cour constitutionnelle selon laquelle le système de calcul ne tenait pas suffisamment compte des revenus des gens durant leur vie active. 70% des retraités tchèques devraient ainsi voir le montant de leur pension légèrement diminué et ce de 1 à 3% à partir du mois d'octobre prochain, tandis que 20% d'entre eux qui possédaient des salaires plus élevés que la moyenne durant leur vie active verront le montant de leur pension inversement augmenter. La réforme prévoit aussi une augmentation de l'âge du départ en retraite. Pour les hommes, l'âge limite devrait continuer d'augmenter de 2 mois par an, tandis que pour les femmes nées après 1956, cette limite devrait augmenter de 4 mois par an. L'objectif est que l'âge du départ en retraite pour les hommes comme pour les femmes atteigne 66 ans et 8 mois en 2041. Le texte de la réforme doit encore être débattu au Sénat où l'opposition de gauche possède toutefois la majorité. On passe à la culture, la 17e édition du Salon international Le Monde du Livre, Prague 2011, ouvre ses portes ce jeudi au Palais Industriel. Près de 500 exposants en provenance de près de 50 pays figurent au programme. L'Arabie Saoudite est l'invité d'honneur de cette 17e édition qui s'achèvera dimanche. Pour la première fois, un nouveau pavillon consacré aux livres électroniques sera ouvert durant les 4 jours de la manifestation. La littérature du monde arabe, et en particulier d'Arabie Saoudite, constitue le thème central de cette 17e édition. Culture toujours, plus de 40 concerts de grands interprètes, d'orchestres symphoniques et de chambres et 7 opéras figurent au programme du Festival international Le Printemps de Prague, dont la 66e édition débute ce jeudi par un concert à la maison municipale. Le festival s'ouvre traditionnellement à la date du jour anniversaire de la mort du compositeur Bedřich Smetana, le 12 mai 1884. Comme chaque année, le cycle de poèmes symphoniques Ma Patrie, chef d'œuvre de Smetana, sera interprété en ouverture par l'orchestre symphonique du Conservatoire de Prague, placé sous la baguette de Jiří Bělohlávek. Pour cette 66e édition, l'accent sera mis sur l'œuvre du compositeur Gustav Mahler, dont 100 ans se seront écoulés depuis sa mort le 18 mai. Le Printemps de Prague s'achèvera le 4 juin. On passe au sport. La République tchèque a battu les États-Unis 4-0 en quart de finale du championnat du monde de hockey sur glace ce mercredi après-midi à Bratislava. Les Tchèques, invaincus depuis le début du tournoi, se sont imposés notamment grâce à un triplé de leur attaquant vedette Jaromír Jágr. En demi-finale vendredi, la République tchèque sera opposée au vainqueur du quart de finale entre la Suède et la Norvège. On termine avec un mot de météo après une journée de mercredi de nouveau largement ensoleillée. Le soleil se couvre ce jeudi, jour de la fête des Pancrates. Des averses abondantes ainsi que des orages sont prévus, notamment dans la moitié ouest du pays. Les températures varient entre 19 et 27 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Quel le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes toujours à l'écoute du programme en français de Radio Prague, un programme consacré aujourd'hui d'abord dans les premières minutes au gaz de schiste, le gaz de schiste qui fait polémique aux États-Unis, en France et puis peut-être maintenant en République tchèque également. Vous en saurez plus dans quelques instants avec Václav Richter. Ce sera juste avant de parler cinéma avec bien sûr le Festival de Cannes qui commence aujourd'hui en France et nous parlerons de la participation tchèque avec notamment une coproduction tchèque qui sera projetée à la fin du festival. Et puis dans la partie historique, comme tous les mercredis, nous irons faire un tour du côté de Sezimovo Ousti, là où se trouve le musée d'Edouard Beneš. Très bonne écoute à toutes et à tous. L'exploitation éventuelle des gisements de gaz de schiste fait l'objet d'un large débat dans plusieurs pays. Des spécialistes et économistes se posent la question de savoir dans quelle mesure le gaz de schiste pourrait remplacer le gaz naturel importé. Ils se demandent surtout quel serait le prix d'une telle entreprise et quelles en seraient les retombées sur l'environnement. Tout récemment, la polémique sur ce problème a été lancée en République tchèque, un pays qui dispose très probablement de gisements importants de gaz de schiste. Václav Richter pour plus d'informations.
Les gisements de gaz de schiste se trouvent en général à 2000 mètres de profondeur. Il s'agit du méthane comprimé dans les cavités de la roche sédimentaire qui l'a fabriqué. L'exploitation de ce gaz est possible de nos jours grâce aux technologies qui permettent la fracturation de la roche. L'eau injectée dans la roche crée des fissures par lesquelles le gaz de schiste peut s'échapper. Ce procédé n'est ni simple ni bon marché et nécessite d'importants travaux de forage. Il assure pourtant aujourd'hui 20% de la consommation de gaz aux États-Unis, ce qui est considéré comme la preuve de sa viabilité aussi sur d'autres continents. Selon une étude de l'agence gouvernementale américaine US Energy Information Administration publiée par le journal Financial Times, d'importants gisements de gaz de schiste se trouvent dans 31 pays. En Europe, cette réserve pourrait assurer la consommation de gaz pendant 60 ans. D'après le journal Gazeta Wyborcza, en Pologne, ce gaz pourrait assurer complètement les besoins de la population pendant 380 ans. Sur le territoire tchèque, les gisements les plus importants se trouvent en Moravie. Cependant, les avis des experts sur l'exploitabilité de ces richesses divergent. Jan Prochaska, analyste de la société de placement Cyrus, voit cette possibilité d'un œil plutôt sceptique.
Le fait qu'il y ait une réserve pour 60 ans est sans doute très alléchant, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit d'un gaz spécifique. Le fait qu'aux États-Unis, l'exploitation de ce gaz a fini par couvrir près de 20% de la consommation totale est dû à des facteurs complémentaires. Il s'agit des rapports de propriété. Aux États-Unis, le gaz est puisé sur des terrains privés. Ici, ces terrains appartiennent à l'État. Mais le plus grand problème est la densité de population. Il s'avère qu'en Europe, il n'y a pratiquement pas de localité inhabitée.
Selon Jan Prochaska, en Europe, la carte des gisements est incompatible avec la carte démographique et la technologie d'extraction présente un risque pour l'environnement. En plus, l'intention de creuser des mines de gaz se heurterait sans doute à la résistance de la population locale. Jan Prochaska estime donc que les inconvénients de ces technologies d'extraction sont encore trop importants.
Un cocktail d'eau, de sable et de matières chimiques, benzène, toluène, ammoniac, s'injecte dans la profondeur d'un millier de mètres dans un puits. Cela provoque une espèce de petit séisme qui brise la roche et permet au gaz de s'échapper par des fissures. Nous en venons donc à nous demander logiquement ce que deviennent ces matières chimiques qui restent au sous-sol.
Bien que les experts s'accordent pour constater que beaucoup de problèmes liés à l'exploitation du gaz de schiste ne sont pas encore résolus, ils espèrent que ce phénomène pourrait jouer d'ores et déjà un certain rôle sur le marché du gaz en Europe. Il pourrait devenir un moyen de pression sur la société Gazprom, qui est le principal fournisseur en gaz naturel russe pour plusieurs pays européens, dont la République tchèque. La société RWE, qui est le principal distributeur de gaz en Tchéquie, proteste contre les prix trop élevés du gaz naturel fixé par Gazprom, car les contrats à longue échéance l'obligent à payer à Gazprom des prix plus élevés que ceux de la bourse. RWE, qui pâtit de cette situation, a déjà ouvert un procès d'arbitrage contre Gazprom pour obliger la société russe à adapter les contrats à la situation actuelle. Le danger que les clients de Gazprom se libèrent de leur dépendance grâce à leurs réserves de gaz de schiste pourrait donc rendre le géant russe plus sensible à leurs revendications.
Suite de ces faits et événements avec du cinéma et évidemment le début du Festival de Cannes ce mercredi en France avec du beau monde sur la croisette, peu de films tchèques encore cette année avec l'exception notable de Cagey Tigers du réalisateur connu sous son pseudonyme Aramisova, sélectionné dans la catégorie du prix de la Ciné-Fondation. Mais l'événement pour les Tchèques, ce sera le dernier jour du festival, après la remise des prix par le président du jury, Robert De Niro, avec la projection du film Les Bien-Aimés, coproduit par la société tchèque Négative, dirigée par Pavel Strnad, qui nous en a dit un peu plus sur ce film, réalisé par le français Christophe Honoré. On l'écoute.
Ta spolupráce vlastně vznikla na základě naší už předchozí spolupráce, kdy se společnost Wynot.
Cette collaboration remonte en fait à notre dernier projet en commun avec la société française Why Not Productions, qui avait aimé le film Something Like Happiness et coproduit ensuite Country Teacher, également réalisé par Bohdan Slama. Nous avions donc déjà travaillé ensemble et ils ont reçu le scénario de Christophe Honoré, qui se déroulait partiellement à Prague. Ils nous ont proposé de collaborer et nous les avons aidés à trouver des financements. Il y a donc des acteurs tchèques, du personnel tchèque à travailler sur ce film et nous nous sommes impliqués financièrement.
Parmi les acteurs tchèques qui jouent dans Les Bien-Aimés, il y en a qu'on n'attendait pas forcément.
Parmi les acteurs tchèques, celui qui a le rôle le plus important est paradoxalement quelqu'un qui n'est pas un acteur, le réalisateur Miloš Forman, qui a un des rôles principaux. Nous lui avons proposé le rôle et nous avons eu le plaisir de recevoir son accord. Les rôles plus petits sont campés notamment par Susanna Klonerova, Pavel Liška et Václav Neužil.
Une partie du film se déroule sur le sol tchécoslovaque. Plusieurs scènes ont donc été tournées en République tchèque, des scènes des années 60. On écoute encore Pavel Strnad.
Nous avons tourné principalement à Prague, des scènes de la fin des années 1960, au moment de l'invasion de l'armée soviétique, avec notamment des chars soviétiques dans des rues du quartier de Karlin. À Prague, nous avons tourné avec l'une des actrices principales du film, Ludivine Sagné.
Le film a été soutenu financièrement par le Fonds national tchèque pour la cinématographie. D'une certaine manière, le cinéma tchèque sera donc représenté à Cannes, même si le film est une coproduction et qu'il n'est pas dans la compétition officielle. Pavel Strnad.
Cannes est sûrement le plus grand et le plus important festival de films dans le monde, au moins au niveau commercial. C'est important pour chaque film. Nous sommes contents d'y être, même si ce n'est qu'une coproduction. Et le fait qu'il soit projeté lors de la cérémonie de clôture, cela nous fait extrêmement plaisir.
C'était Pavel Strnad, le coproducteur tchèque du film Les Bien-Aimés, qui sera donc projeté après la cérémonie de remise des prix à Cannes. Ce sera d'ici une dizaine de jours. La suite du programme en français, c'est avec un chapitre de l'histoire, en direction aujourd'hui la ville de Sezimovo-Ousti, près du célèbre centre-site de Tabor, dans le sud de la Bohême. La ville de Sezimovo-Ousti qui abrite le musée du deuxième président tchécoslovaque, Edvard Beneš, que nous allons revisiter aujourd'hui. Dans les années 1930, Edvard Beneš, alors ministre des Affaires étrangères, a fait construire à Sezimovo Ústí une villa qui, après qu'il a succédé en 1935 à Tomáš Garrigue Masaryk, allait être transformée en résidence présidentielle où il recevait des hôtes du monde entier. Un musée qui s'y trouve nous familiarise avec la vie privée et politique du deuxième président tchécoslovaque, considéré comme une personnalité controversée, notamment à cause des décrets portant son nom. Cette émission, ce chapitre de l'histoire, est une rediffusion, d'une émission déjà diffusée par Jaroslava Gisubelova en août 2008.
Chapitre de l'histoire.
C'est dans cette villa que Beneš s'est réfugié après ses deux abdications forcées, la première à la suite de Munich et la deuxième après le coup d'État communiste, où il est mort et inhumé. Faire de la villa de Sezimovo Ústí un monument était le souhait de Madame Benešová, qui a survécu 26 ans à son mari. Peu avant sa mort en 1974, elle a légué la villa à l'État, qui l'a fermée au public. Il n'était même pas possible de visiter la tombe du président. Ce n'est donc que 30 ans plus tard que le dernier souhait de Hanna Benešová s'est accompli. Villa blanche incontournable, située au milieu d'un beau parc, trahit l'inspiration venant de l'architecture du Midi de la France, un pays où Beneš a fait ses études, où il a souvent séjourné et pour lequel il avait beaucoup d'estime. Le choix de Sezimovo Ústí était une affaire de son épouse Hanna, qui a passé son enfance non loin de là, à Tabor. Dans leur nouvelle maison, les Beneš passaient toutes les fêtes, et tant que le programme chargé le permettait, chaque dimanche. L'historien Stanislav Zita, du musée du mouvement Ústí de Tabor, qui m'a servi de guide dans l'exposition Beneš, montre les photos sur lesquelles on voit les foules saluer Edvard Beneš en voiture tout le long du tracé de Prague jusqu'à Sezimovo Ústí. L'exposition assez réduite est installée non pas dans la villa, mais dans les nouveaux locaux spécialement aménagés à cette fin. Stanislav Zita explique.
Možná jako někomu se zdá rozsahem příliš malý, myslím si, že
Le monument pourrait sembler petit et modeste. Des monuments pompeux et gigantesques, on avait l'habitude de les ériger sous l'ère précédente. Puisque nous sommes ici sur un lieu de piété, près de la tombe familiale des Beneš, on a voulu que le souvenir ait un caractère plus intime. Dans les vitrines, on peut voir quelques meubles de la villa qui ont été sauvegardés, mais celle-ci était complètement reconstruite dans les années 1970, de sorte qu'il est difficile, voire impossible, de la restaurer dans son état d'origine. Dans cette exposition, on peut voir le fauteuil préféré du président, la lampe et la table où il aimait s'asseoir, lire et écouter de la musique, l'album de disques avec enregistrement des danses slaves d'Antonín Dvořák est un don de la Philharmonie tchèque. Des objets personnels du président, il y a des lunettes et un étui qu'il a acheté en Angleterre. Des photos de la jeunesse d'Edvard Beneš le montrent en joueur de football du Slavia Prague, puis lors de ses études au lycée Carnot de Dijon. Il y a aussi la thèse de doctorat de Beneš sur le thème du problème autrichien et la question tchèque écrite de sa propre main. La symbolique de la Première Guerre mondiale est représentée à l'exposition par des fusils et des casques autrichiens. Quelques photos montrent Edvard Beneš, Tomáš Garrigue Masaryk et Rastislav Štefánik en exil à Paris, d'où il organisait la résistance anti-autrichienne en formant les légions en France, en Italie et en Russie. Selon Stanislav Zita, Beneš a eu un rôle important pour que la République tchécoslovaque soit devenue un État à part entière dans le monde.
17 let vykonával... Úřad ministra zahraničí. Žádný jiný politik v Evropě tak dlouho úřad
ministra. Pendant 17 ans, il exerçait les fonctions de ministre des Affaires étrangères. Aucun autre politicien en Europe n'est resté aussi longtemps dans ces fonctions. En 1935, Edvard Beneš a succédé à Tomáš Garrigue Masaryk au poste de président de la République. Une photo saisit le serment présidentiel et son portrait officiel. Sur plusieurs photos, on voit Beneš en train de négocier avec les membres permanents de la Petite Entente, les chefs d'État et de la diplomatie de Yougoslavie et de Roumanie. D'autres montrent ses rencontres avec l'homme politique britannique Winston Churchill et le roi de Norvège Haakon VII. Très intéressante est la photographie montrant Beneš lors d'une rencontre avec les compatriotes à Cleveland aux États-Unis. En 1939, le maire de Cleveland a offert à Beneš une clé symbolique de la ville en hommage à un événement qui occupe une place importante dans l'histoire de l'État tchécoslovaque. En 1915, les deux plus importantes organisations de compatriotes aux États-Unis et au Canada ont signé à Cleveland une convention sur la création d'après-guerre d'un État commun des Tchèques et des Slovaques.
Po válečném vytvoření společného československého státu.
Après son deuxième départ en exil en 1939, Beneš a en vue de maintenir la continuité juridique de la Tchécoslovaquie. En 1942, il a réussi à obtenir l'annulation des accords de Munich de la part de la France et de la Grande-Bretagne et la reconnaissance du gouvernement provisoire comme représentant légitime du pays. Politicien réaliste qui, après les batailles de Stalingrad et de Kursk, s'est rendu compte de ce que l'Union soviétique allait avoir une part décisive à la défaite du nazisme, Beneš a signé en 1943 un nouveau traité avec l'Union soviétique. Or, il s'est trompé en croyant que les soviétiques respecteraient l'article 4 de ce traité où il est dit qu'il ne s'immixerait pas dans les affaires internes de la Tchécoslovaquie. Comme le dit l'historien Zita, il n'est pas entièrement responsable de la tournure des événements.
Sovětský svaz měl lví podíl na porážce Německa.
La défaite de l'Allemagne par l'Union soviétique a eu pour conséquence un glissement à gauche en Europe entière. Des tendances socialisantes étaient présentes également en Italie, en France et dans d'autres pays d'Europe occidentale. Beneš a voulu faire de la Tchécoslovaquie un pont entre l'Ouest et l'Est. Or, il s'est vite avéré que la direction de Moscou avait des intentions tout autres. A suivi en février 1948 le coup d'État communiste. Beneš a refusé de signer la constitution communiste du 9 mai 1948. Le 7 juin, il a abdiqué et s'est retiré à Sezimovouski où il est mort le 3 septembre de la même année. La dernière photo de l'exposition montre Beneš sur son lit de mort, la construction de la tombe familiale et la main du président coulée en bronze par le sculpteur Dvořák, auteur de la statue d'Edvard Beneš, qui se trouve devant le monument et que la ville de Tabor lui a offerte en 1938 avec la dédicace suivante, Tabor à son président.
C'est avec ce chapitre de l'histoire que se termine le programme en français de Radio Prague. Merci à toutes et à tous de votre attention et de votre fidélité. J'espère à très bientôt sur nos ondes.